France Inter.
13h, l'heure de votre journal, Céline Aslo. Bonjour Céline.
Bonjour à tous. Après l'Alaska hier soir, c'est à Washington que les discussions sur l'Ukraine vont se poursuivre. Volodymyr Zelensky est attendu lundi à la Maison-Blanche. Donald Trump dit maintenant vouloir travailler un accord de paix, pas simplement un cessez-le-feu, mais la rencontre avec Vladimir Poutine s'est achevée sans résultat. Les Ukrainiens font part de leur colère. Les Européens tentent de revenir dans le jeu diplomatique. On ira à Kiev et à Bruxelles dans les prochaines minutes. On prendra aussi la direction de l'Espagne où les incendies font toujours rage. Et puis on fera le point sur la météo avec vous Virginie Hilson-Lévy et sur ce nouveau coup de chaud dans le sud aujourd'hui.
Oui, plus de 40 degrés dans le sud-ouest avec du soleil partout. Je vous donne tous les détails dans quelques minutes.
À suivre également le tourisme et les professionnels qui évoquent déjà un été 2025 en demi-teinte. Le football avec Lyon qui affronte Lens ce soir et qui espère une renaissance après avoir frôlé la relégation. Et puis on vous emmène au championnat du monde de roucoulement. Et oui, le but c'est d'imiter un pigeon. On vous fait écouter le résultat à la fin de ce journal.
France Inter.
D'un côté, il y a le président américain qui se félicite des progrès réalisés en vue de la paix. Et puis de l'autre, il y a la réalité du terrain. La nuit dernière, l'armée russe a mené 85 attaques de drones et revendique ce matin la conquête de deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine. La guerre donc se poursuit malgré les efforts diplomatiques de Donald Trump et malgré le tapis rouge déployé pour accueillir Vladimir Poutine en Alaska. Et dans les rues de Kiev, où vous trouvez Boris Sloumaïn, c'est l'amertume qui semble dominer aujourd'hui.
Oui, c'est ce que ressentent les habitants de Kiev que nous avons croisés ce matin. Une chose tout d'abord les a marqués, ce sont les images de cette réunion, ces poignées de main chaleureuses entre Trump et Poutine, ces sourires, cette cordialité. Voir le président russe accueilli comme ça par son homologue américain, cela révulse les Ukrainiens comme Dmitro.
Franchement, c'était dégoûtant de voir ça. Un homme qui a tué tellement de gens, qu'il soit accueilli comme ça, ce n'est pas normal.
Et oui, l'homme à l'origine de tant de malheurs, de tant de souffrances, ici, le voir sourire sur un tapis rouge aux côtés d'un allié historique de l'Ukraine, c'est dur pour la population. Rana tient une petite supérette dans le centre de Kiev.
Ça m'a dégoûté de voir ce tapis rouge, mais ça va même au-delà du tapis rouge. Hier, la réunion n'a pas apporté les réponses que l'on attendait. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment cherché une solution, et je pense même que ça a amplifié nos problèmes.
Ils se sont moqués de nous hier, conclut Rana, qui ne croit plus désormais en une résolution rapide du conflit.
Merci Boris Sloumaïn, envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Donald Trump, lui, semble changer de stratégie. Plus question de travailler un cessez-le-feu, dit-il. Ce qu'il faut, c'est aller directement en accord de paix. Et il semble cette fois associer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. En tout cas, a été invité à se rendre lundi à Washington. Et si ça se passe bien, dit Trump, nous programmerons une rencontre avec Vladimir Poutine. Et c'est bien lui, le dirigeant russe, qui semble le grand gagnant de la rencontre d'hier, selon Marie Mandras, elle est professeure à Sciences Po Paris.
Vladimir Poutine cherche à gagner du temps et il a gagné un certain répit. Rappelons qu'en février 2022, il prétendait gagner en quelques jours et au bout de 3 ans et demi, du côté russe, il y a plus d'un million de tués et blessés graves. Il craint d'être mis de côté chez lui. Et ce que lui a offert Donald Trump, qui est évidemment le grand perdant de ce sommet écourté, il donne à Poutine un sursaut chez lui. Il a remis vraiment Poutine au centre de la diplomatie de guerre en l'invitant en territoire américain, alors que Poutine est sous un mandat d'arrêt international de la Cour pénale de La Haye.
Marie Mandras, professeure à Sciences Po Paris, spécialiste de la Russie, au micro de Justine Leblon. Quant aux Européens, eh bien, ils espèrent maintenant revenir dans les discussions. Jean-Jacques Herry, vous êtes à Bruxelles. Pour l'heure, Donald Trump les a simplement informés de ce qui s'était passé en Alaska lors d'une réunion téléphonique organisée avec plusieurs dirigeants des 27, dont Emmanuel Macron.
Un débriefing téléphonique d'un peu plus d'une heure ce matin depuis l'avion présidentiel américain Air Force One. Et c'est à peu près tout ce que Donald Trump a accordé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi qu'aux chefs d'État européens et aux dirigeants de l'OTAN. Pour le reste, on ne sait pas trop ce qui s'est dit sur le fond lors du tête-à-tête entre les présidents russes et américains. Et dans un communiqué commun des leaders européens publié en fin de matinée, ceux-ci semblent répéter ce qu'ils disaient déjà avant la rencontre d'hier en Alaska, insistant sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, se félicitant de voir Donald Trump Trump adhérer à l'idée de garantie de sécurité pour le pays et affirmant vouloir jouer les facilitateurs pour la tenue d'une rencontre tripartite entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine. Là non plus, rien de vraiment nouveau. Les Européens ménagent aussi le président américain, saluant ses efforts pour mettre fin à la guerre, dans ce qui ressemble à une déclaration d'intention, sans véritable possibilité d'action face à un Donald Trump versatile qui hier matin encore prenait un cessez-le-feu immédiat et dit maintenant finalement vouloir un accord de paix, alors que les combats sur le terrain ces dernières semaines marquent une avancée de l'armée russe. Bruxelles, Jean-Jacques Herry, France Inter.
Et dans un message posté sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron appelle à maintenir la pression sur la Russie tant qu'une paix solide et respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue, dit le chef de l'État.
France Inter, le journal de 13h, Céline Asselot.
42 degrés à Montpellier cet après-midi, mais seulement 24 à Cherbourg. Les températures devraient encore faire le grand écart. 54 départements sont toujours en vigilance orange dans le sud, même si la tendance est à l'amélioration. On va voir ça dans quelques minutes. Mais pour beaucoup, cette canicule doit servir de leçon. Il faut mieux se préparer aux vagues de chaleur. Ainsi, dans la Drôme, à Valence, le maire mène depuis plusieurs années une politique de végétalisation. Utile, mais pas suffisant, selon les habitants. Nicolas Joly.
Impossible de manquer les arbres plantés boulevard Bancel. Martine habite Valence depuis 32 ans. Elle voit bien que sa ville devient plus verte.
La place de la mairie a changé. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été végétalisés. Oui.
Mais à midi, difficile de trouver de l'ombre, à moins de s'asseoir par terre, sous les arbres. Ses habitants ne voient pas grand monde profiter des îlots de fraîcheur.
C'est pas évident non plus de venir s'installer au-dessus, au vu de tout le monde.
Quand vous allez là-bas, au fond, il n'y a personne. C'est désert.
Emmanuel Rocchini, directeur général adjoint cadre de vie à la ville de Valence, défend tout de même cette politique de verdissement. Plus de 10 000 arbres plantés en 6 ans.
On peut avoir 4 à 5 degrés d'écart entre une rue qui est ombragée et une rue qui n'est pas ombragée. Et sur une ville, on peut avoir entre des espaces qui sont extrêmement végétalisés et des espaces urbains jusqu'à 15 à 20 degrés d'écart.
Végétaliser la ville, Jean-Pierre n'est pas contre. Il vit à Valence depuis plus de 40 ans.
Et on pourrait aussi parler de la dévégétalisation quand même. Parce qu'il y a quelques endroits où il y avait des végétaux, où il n'y a plus maintenant, où il y a des parkings par exemple. Les façades devraient être aussi végétalisées. Mais bon, ça, je reconnais que c'est un coût. Hein.
8 millions d'euros au total, c'est le montant investi par la ville pour son plan arbre qui doit s'achever l'année prochaine.
Nicolas Joly à Valence, dans la Drôme. Et cette vague de chaleur n'épargne pas nos voisins. 14e jour consécutif de canicule dans la péninsule ibérique avec des incendies qui inquiètent toujours les autorités. Les feux fait une première victime au Portugal. En Espagne, le bilan est déjà de 3 morts. La quasi-totalité du pays est en alerte maximale ce week-end avec des feux qui compte parmi les plus importants de l'histoire du pays. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant en Espagne.
La Galice, la région de la pointe nord-ouest de l'Espagne, a battu son triste record du plus grand incendie de l'histoire avec plus de 16 000 hectares brûlés près d'Ourense. Plus au centre, entre Zamora et León, ce sont 40 000 hectares qui sont partis en fumée. La tension est amplifiée par la querelle politique avec un affrontement entre les régions de droite et le gouvernement de gauche. Pendant ce temps, le Portugal a connu sa première victime, l'ancien maire de la ville de Guarda, à l'est du pays, qui participait aux travaux d'extinction. Lors de sa rencontre hebdomadaire avec le Premier ministre mercredi dernier, le président de la République avait averti Marcelo Rebelo de Sousa.
Nous sommes tous conscients au Portugal que la situation s'est aggravée et il faut dire la vérité aux Portugais. Il y a une convergence de conditions objectives, de nature météorologique et physique, qui peut déboucher sur une situation propice à la persistance et à l'aggravation des incendies.
Au Portugal, le souvenir des terribles incendies de 2017 est encore présent. Le président considère toutefois que la comparaison ne tient pas, car la coordination et les capacités des pompiers se sont largement améliorées au cours des dernières années.
Les précisions depuis l'Espagne de Mathieu de Taillac. Et puis au Pakistan, c'est la mousson qui provoque dégâts et victimes. 344 personnes sont mortes en 48 heures, selon un dernier bilan en raison des pluies diluviennes plus intenses qu'à l'habitude. En France, pas facile de trouver une pharmacie ouverte aujourd'hui. 92% d'entre elles sont fermées, selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Conséquence du mouvement de protestation contre la décision du gouvernement de réduire le plafond des remises mise sur les médicaments génériques. Dans l'Allier, un enfant de 7 ans est mort noyé hier après-midi lors d'une sortie dans une plaine de jeux de Moulins. Il séjournait dans un centre de vacances appartenant à la ville de Bobigny. Les noyades sont en très forte hausse depuis le début de l'été en raison notamment des fortes chaleurs. Un été très chaud donc, mais un été pas forcément très favorable aux professionnels du tourisme. Ce week-end du 15 août est l'occasion de dresser un premier bilan des vacances, même si c'est un peu tôt pour avoir des chiffres précis. Le secteur estime que le climat économique géopolitique pèse sur les congés des Français. Bonjour Ajra Mohamad.
Bonjour Céline.
Alors, les Français, ils partent toujours en vacances, oui, mais ils dépensent moins que d'habitude.
Oui, des vacances raisonnables, pas trop de folie au menu cet été. En parlant de menu, eh bien, ce sont notamment les repas au restaurant sur lesquels les vacanciers ont décidé de se restreindre. L'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, avait déjà alerté sur le sujet avec une baisse de la clientèle de 15 à 20% depuis le début de la saison. Tendance qui semble se confirmer sur tous les lieux de vacances, quelle que soit la destination, explique Valérie Bonnède. C'est la présidente de DV, entreprise de voyage, l'organisation professionnelle des tours opérateurs français.
On le voit dans les campings, on le voit dans les hôtels, les restaurateurs, les gens qui vendent des glaces, etc. voient la consommation sur place, sur les lieux de vacances des Français, moins importante que l'année dernière, de façon assez claire. C'est-à-dire qu'on mange plus dans les appartements qu'on loue plutôt que d'aller au restaurant. C'est donc qu'il y a un sujet de budget.
Un budget à maîtriser à tout prix, ce qui explique pourquoi aussi peut-être les clubs de vacances, type Club Med ou Bellambra, font une bonne saison. Ça peut paraître contradictoire et pourtant les formules all inclusive, tout compris, attire toujours autant.
Ça peut être du all-inclusive d'entrée, entre guillemets, de gamme, qui permettent d'acheter au départ un voyage où on sait qu'on va avoir quasiment rien à dépenser en plus de ce qu'on a acheté au départ.
Mais globalement, les réservations de vols et d'hôtels pour le mois d'août en France sont en baisse, moins 5,6%, tendance qui peut se redresser encore avec les réservations de dernière minute.
Merci Ajra Mohamad pour toutes ces précisions. C'était le premier match de la saison et il n'a pas vraiment donné confiance aux Marseillais. L'OM a été battu hier soir par Rennes. 1-0 en ouverture de la Ligue 1. Maintenant, c'est au tour de Lyon de faire sa rentrée. L'OL se déplace à Lens cet après-midi et c'est une nouvelle ère qui commence pour les Lyonnais, Christophe Vincent, qui ont failli être relégués en Ligue 2 pour raisons budgétaires.
John Textor est parti, remplacé par Michel Kang. La patronne des Lyonnes a pris les rênes d'un club en perdition, réduit son train de vie et instauré un climat apaisé. Le nouveau capitaine, Corentin Tolisso, apprécie.
De voir au quotidien, même pendant les vacances, l'Olympique Lyonnais, Ligue 2, DNCG, problème d'argent, etc. C'est pénible et ça use un peu sur le moral. Donc de pouvoir travailler tranquillement, ça fait du bien. On a tous vécu la même chose, donc je pense que ça nous a soudés. Ça a pu que renforcer l'état d'esprit du groupe. Très peu de gens nous attendent, donc pourquoi pas être la bonne surprise de cette année.
Tolisso, l'ancien, aux côtés de jeunes produits maison et de 5 recrues acquises pour 30 millions, le prix d'une star, Loris et Robin, supporters, adhèrent.
J'ai quand même eu une belle trouille, mais je me suis dit, on est Lyon, on va pas descendre en Ligue 2, ils peuvent quand même pas nous faire ça. Michel Kang, elle est venue et tout a changé.
Le groupe va bien, à l'entraînement, tout ça, on voit le sourire, donc c'est bien. Ça peut marcher, on peut viser facilement le top 10. Il y aura pas de relégation ou de barrage. On va se maintenir.
À Lyon, tout le monde rêve d'une saison sans crise.
Lens-Lyon, c'est donc ce soir à 17h. Et puis on termine par un autre championnat moins connu que la Ligue 1, mais plus original peut-être. Hier, dans le Pas-de-Calais, près de Béthune, s'est tenu le championnat du monde de roucoulement. Compétition qui est prise très au sérieux par les candidats Vanessa Lamar.
Au programme, trois épreuves. D'abord, le pigeon qui s'élance pour un concours. Puis le pigeon qui revient de son concours épuisé par des kilomètres de vol. Et enfin, le pigeon qui fait la cour à madame. Certains n'hésitent pas à joindre le geste à la parole pour amuser la galerie. Il y a aussi la version plus féminine de la parade nuptiale réalisée par Christiane Darmentière. Mais au final, c'est Thomas, 23 ans, de Saint-Martin-les-Tatinghem, près de Saint-Omer, qui devient champion du monde du roucoulement. Une fierté pour ce jeune colombophile.
Ça fait 3 ans que je suis colombophile depuis le décès de mon grand-père. J'étais beaucoup avec lui, donc forcément, j'ai vécu avec les pigeons. C'est génial.
Est-ce que vous pouvez nous faire le pigeon qui a gagné le concours ?
Les candidats ont été notés par un jury expérimenté de colombophiles, parmi eux le président de la Fédération internationale, le portugais David Barroso. Madeira.
Le garçon qui a gagné, c'est vraiment celui qui a réussi à reproduire le son le mieux.
Ce championnat du monde du roucoulement n'est pas une compétition homologuée, mais pourquoi pas la rendre officielle, se disent des membres de la Fédération française de colombophilie.
Oui, pourquoi pas, Vanessa Lamar de la rédaction d'Ici Nord. Tout de suite la météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Virginie Hilson-Lévy.
Bonjour à tous.
Et c'est donc dans le sud-ouest aujourd'hui encore qui va faire le plus chaud.
Oui, nouveau pic de chaleur après 8 jours de canicule. Déjà, il va faire très chaud cet après-midi. Du sud de la Bretagne vers les Charentes et toute la moitié sud jusqu'à la Corse. On attend 32 à 38 degrés sur ces régions. 32 degrés à Brest, c'est 5 degrés de plus qu'hier. 34 à Nantes, 37 à La Rochelle. Et jusqu'à 40, 41 degrés possibles le long de la vallée de la Garonne, entre Bordeaux, Agen, Toulouse jusqu'en Languedoc-Roussillon et en basse vallée du Rhône. Et plus au nord, un vent de nord-est moins chaud qui fait baisser le mercure. 25 à 32 degrés avec 26 à Lille, 28 à Paris et 32 degrés à Strasbourg.
Et attention aux orages cet après-midi.
Notamment sur les reliefs de l'Est, sur les Alpes, ils seront localement forts. Ils pourraient donc concerner aussi la région de Nice en fin de journée. Sinon, c'est du soleil partout. Nuages un petit peu plus nombreux sur le Nord-Pas-de-Calais. Mistral et Tramontane qui se lèvent à 60 km/h en rafale avec un risque de feu de forêt qui s'annonce élevé, notamment dans la Drôme, le Vaucluse et l'Aude.
Merci Virginie Sonne-Lévy pour toutes vos prévisions.